fait un petit essai.
Allez. Faut que ce soit assez dégueu, contracté, hein, que ça fasse pas trop lecture non plus.
C'est bon ? Je pense que c'est bien.
France, 1970, environ. Daniel Charles, musicien, philosophe, s'entretient avec John Cage, compositeur. Silence, son, musique, composition, hasard, anarchie. Autant de thèmes de conversation pour aborder l'univers Cage. Une mise en voix par Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera de Pour les oiseaux, réédité en 2002 aux éditions de l'Herme.
D'une façon générale, John Cage, les musiciens japonais vous ont très favorablement accueilli. L'œuvre de Toshi Ishiyanagi vous doit beaucoup. Et je me rappelle avoir lu dans Calvin Tompkins le récit de cette cérémonie de 1962 au grand sanctuaire Shinto Gizé, au cours de laquelle un maître de l'art floral japonais a appelé sur vos activités et sur celles de M. Tudor toutes les bénédictions et toutes les félicités.
Et effectivement, je me suis rendu à deux reprises au Japon avec David Tudor et nous y avons beaucoup d'amis. Du point de vue musical, je pense que ce que nous leur avons joué leur a donné l'occasion de découvrir une musique qui fut la leur plutôt qu'une musique à 12 sons. Avant notre venue, ils n'avaient eu alternative que le dodécaphonisme. Et le néoclassicisme ne leur était pas vraiment accessible parce qu'il aurait signifié un simple retour à leur classicisme. En fait, notre musique, c'est-à-dire la musique que David Tudor leur jouait, était la seule qui fut susceptible de leur permettre une appréciation analogue à celle que leur suggérait la musique japonaise traditionnelle. Et ils ne trouvaient pas d'équivalent dans les différentes musiques modernes. C'est donc un peu grâce à nous que l'on trouve à présent dans les musiques japonaises nouvelles des événements similaires, mais non identiques, à ceux de la musique japonaise ancienne.
Pouvez-vous en donner un exemple ?
L'autre jour, j'ai eu une très curieuse expérience dans un restaurant japonais à New York. C'était juste il y a quelques semaines, il y avait dans ce restaurant un magnétophone qui passait de la musique japonaise. Habituellement, les rythmes en sont soutenus et je ne l'apprécie pas particulièrement. Je préfère la musique coréenne. En fait, de la musique japonaise, je préfère la musique shakuhachi. La flûte me convient mieux que le koto. Nous parlions donc normalement pendant que cette musique défilait. Et peu à peu, dans les intervalles de notre conversation, je me rendis compte que les silences que comptait cette musique étaient extrêmement longs et que les sons qui survenaient étaient très différents les uns des autres. Je fus stupéfait de ma découverte parce que l'ampleur en était absolument inaccoutumée. La bande était très longue et je n'avais jamais trouvé cela dans les musiques traditionnelles du Japon. C'était une pièce non pas pour les Japonais, mais à l'intention de l'univers entier, exactement à la façon de ces musiques que Wolf écrit et qu'il joue, et pas tellement différente d'une œuvre de Wolf. Il y avait des sons qui flottaient dans un immense espace, un espace de temps, et sans doute aussi dans l'espace tout court, venant de toutes les parties de l'espace à la fois, à ce qu'il me semblait. Cela, les pièces de Wolf le réalisent bien, explicitement, mais ici, il n'y avait qu'un magnétophone, tout venait de lui. Et c'était très beau, j'étais incapable de reconnaître la moindre battue, la moindre périodicité. Tout ce que j'étais capable d'identifier, c'était la venue de quelques sons, de temps en temps. J'étais livré à mon expérience naturelle, à ma vie quotidienne. Quand je n'écoute pas de la musique, quand les sons simplement adviennent, il n'y a rien de plus délicieux.
Voici quelques années, au Congrès international d'esthétique d'Amsterdam, un professeur japonais était venu exposer quelques traits de la musique zen. Il s'était servi, pour illustrer son intervention, de sons de gong enregistrés dans un temple. Et pour rendre sa démonstration plus frappante, il s'agissait de prouver que la musique zen s'adresse au corps, à l'abdomen, et non à la tête ou l'oreille, il avait cru bon de faire entendre trois fois chaque sonorité. Et à la fin, le président de la séance lui posa cette question. Le nombre 3 joue-t-il un rôle spécifique dans le zen ? Stupéfaction du conférencier qui dut expliquer que les coups de gong n'avaient été diffusés trois fois que pour les besoins d'une démonstration. Au Japon, on ne les écoutait pas en tant que son organisé, mais dans leur solitude et sans rapport entre eux, ni avec un nombre quelconque.
Quand vous écoutez des sons qui sont plus ou moins combinés en un rythme périodique, ce que vous entendez est nécessairement quelque chose d'autre que les sons eux-mêmes. Vous entendez non pas les sons, mais le fait que les sons ont été organisés. Avec le zen, il y a ce reflux vers la non-organisation, c'est-à-dire vers les sons comme tels, pour eux-mêmes.
Je crains que les auditeurs moyens n'accèdent guère à cet aspect de votre démarche.
La musique telle que je l'envisage, et sur ce point je dois avouer la difficulté, c'est à la fois une musique pédagogique et une musique réelle qui suppose la pédagogie évacuée, consommée, achevée. Ma musique donc est une invitation à quelque chose que j'aimerais appeler la noblesse.
Dans quel sens? Songez-vous en quelque manière à Nietzsche?
Non, la noblesse est une expression que je reprends à la tradition bouddhique. Être noble, c'est être dégagé à tout instant du fait d'aimer et de haïr. Beaucoup d'histoires zen illustrent cette noblesse. Pour aider à faire comprendre de quoi il s'agit, je dirais que l'absence de noblesse survient chez un interprète, par exemple, quand au lieu de se comporter fidèlement à l'égard de ce qui lui est demandé, il décide que ce qu'il a à jouer est indigne de lui. Il a entendu dire que cette musique est indéterminée, laissée au hasard, etc., et refuse de jouer. Ou alors, l'interprète peut décider que tout est bon, que tout peut aller, qu'il suffira de jouer n'importe comment.
L'absence de noblesse, à vrai dire, paraît un phénomène assez répandu.
Nous risquons d'y tomber chaque fois que nous nous contentons de mettre quelque chose en rapport avec nos amours et dégoûts.
Chaque fois, en somme, que nous émettons un jugement de goût.
C'est cela. Chaque fois que nous faisons de l'esthétique, si j'écris en me servant d'opérations de hasard, c'est pour libérer ma musique de toutes les sortes d'amour et de dégoût. Je crois que je n'ai pas tort de constater, quand un musicien se refuse à comprendre cela, son manque de noblesse.
Vous n'avez défini que l'absence de noblesse. Qu'en est-il de la noblesse elle-même?
Pour les bouddhistes, il existe des êtres sentants et des êtres non sentants, selon qu'ils ont ou non une sensibilité. Mais sentir et ne pas sentir ne sont pas des comportements hiérarchisables. L'un ne vaut pas mieux que l'autre, ou plutôt tous les deux ont la même valeur, une valeur infinie. C'est à cette égalité que les Japonais rattachent la culture des fleurs ou l'art du thé. Ainsi, peut-être ma musique paraît-elle parfaitement méprisable à tel critique ou à tel musicien, ou à tel interprète. Pour un occidental, c'est un être non sentant. On peut en faire ce qu'on veut. Moi, je la tiens pour rigoureusement égale à un être sentant. Si l'on me rejetait, si l'on me battait, je me plaindrais. Ne suis-je pas un être sentant? Mais si l'on rejette ma musique, si on lui fait violence, de quoi aurais-je, moi, qui ne suis pas ma musique, à me plaindre? Je ne me plains de rien, mais je constate une attitude qui est tout le contraire de la noblesse. Ma musique n'est pas un être sentant, elle n'est pas moi, je n'ai rien à dire, mais elle n'est pas moins que moi, elle mérite d'être traitée comme un être humain. Si misérable qu'elle soit, elle est digne d'autant de compassion. Vous vouliez une définition positive de la noblesse? C'est l'égalité de traitement à l'égard de toute chose, et l'égalité de sentiment à l'égard de chaque chose.
Voilà une définition qui rappelle étrangement celle de la sérénité, de la Gelassenheit, selon Maître Eckhart. Et cette Gelassenheit, qui comprend le lassen, le laisser-être, est définie aussi par Heidegger comme une égalité d'âme à l'endroit des choses. Mais en quel sens parlerez-vous de noblesse chez un auditeur, par exemple? Suffit-il d'abdiquer tout vouloir face à ce qui advient?
Pas nécessairement. Si vous allez aux Indes, vous constatez que, loin de rester sans volonté, sans réaction, les auditeurs d'une musique traditionnelle participent à cette musique. Ils ne demeurent pas indifférents. Leur noblesse revient à laisser être les sons. Mais tout en vibrant et en accomplissant une gestuelle, les dodelinements de tête et de tout le corps, une respiration qui elle-même est un art, il existe une noblesse comparable chez les Espagnols dans leur façon de vivre la musique en la ponctuant de cris et de bruits particuliers. Chez nous, je pense que la noblesse devrait consister à observer le plus grand calme et à laisser être les autres auditeurs, ainsi que les sons.
En Inde, il existe donc un art de l'écoute, et pourtant les musiques d'Orient ignorent les concerts.
On n'y trouve pas ce qui chez nous fleurit sous le nom de amateurisme. La musique y est, ou y était, car cela est sans doute en train de changer, vécue pour elle-même. Il n'y a pas moins de dignité sociale dans le fait d'être un auditeur que dans celui d'être un exécutant. De plus, les compositeurs sont des exécutants eux-mêmes. Ce sont des interprètes qui sont les créateurs et non pas des compositeurs qui condescendent à jouer leur musique. On écoute non pas l'interprète, mais les sons, on ne se dérange pas pour un virtuose, mais pour un raga.
À votre exemple, nous devrions donc nous réclamer de l'Orient.
Mais je ne me réclame en réalité d'aucun Orient. Mon propos n'est pas d'imposer aux auditeurs occidentaux une certaine attitude, mais de les persuader qu'il y a des sons et que ces sons méritent, quels qu'ils soient, d'être écoutés.
Me permettez-vous de vous soumettre une autre anecdote? Juste avant les vacances de Noël 1970, je devais donner un séminaire à l'université de Paris 8 et les participants à un autre cours s'étaient installés dans la salle qui m'était assignée. Impossible de les déloger, ils refusaient de bouger, et impossible aussi de trouver une autre salle. Nous avons donc fini, mes étudiants et moi, par entrer et nous installer à côté et autour du cours qui se donnait. Dans la même salle, on tenait donc deux langages. J'évoquais Messiaen, le cours rival expliquait Mao Tse-tung. Comme je parlais assez fort, les étudiants de l'autre groupe, au lieu d'expliquer leur texte, se sont mis à le scander en chœur. Ils marquaient les périodes de manière telle que les musiciens qui m'entouraient cessèrent de m'écouter et commencèrent à improviser en fonction des données sonores brutes qui leur parvenaient avec leurs flûtes et leurs chaises. Le phénomène a duré plus d'une heure. Peu à peu, d'autres étudiants étaient venus se joindre à nous. Cela ressemblait à l'un de vos events. Mais il m'a semblé que l'expérience était loin d'être pédagogiquement vide. Qu'en pensez-vous ?
C'est le début de l'université de Buckminster Fuller. Ce dernier suggère, dans l'éducation automation, que l'université devienne un espace libre, propre à l'accueil d'activités très diverses. Les bâtiments eux-mêmes devraient être dénués de cloisons intérieures, on pourrait traiter de tous les sujets à la fois dans le même espace. Chaque étudiant aurait à choisir librement ce qui lui conviendrait plutôt que d'être cantonné à un seul cours à la fois. Cela me paraît l'expérience même de la vie actuelle, dans son sens le plus général. Il suffit de se promener dans une ville, les événements qui surviennent équivalent à des classes, à des professeurs qui nous laissent libres d'étudier ce que nous voulons.
L'art d'écouter devient alors essentiel.
Oui, et il n'y a plus de salle de classe, pas plus qu'il n'y a de salle de concert. Je suis persuadé de la possibilité qui est la nôtre d'appliquer cet art d'écouter à tous les domaines. Pour ma part, j'ai essayé d'abord en musique. Mais la musique elle-même n'est qu'un mot. Pourquoi faudrait-il la limiter à tel ou tel champ spécifique ? Il faut faire du monde entier une musique, ou une université, à la Fuller.
Si l'on reste cependant à l'intérieur de ce que l'on entend traditionnellement par ce mot, l'université, il me semble que votre perspective tend à supprimer tout enseignement classique.
Je ne vois pas pourquoi un professeur devrait avoir enseigné à ses étudiants ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il sait faire. Et cela vaut encore plus pour l'enseignement de la musique. Puisque le professeur sait faire ce qu'il sait faire, qu'il est censé déjà connaître la discipline qu'il enseigne, cela suffit. Il n'y a aucune raison que les étudiants prennent le même chemin. Ils n'ont pas à répéter, mais à inventer autre chose.
Oui, mais il est entendu que les gens qui sont là sont venus pour apprendre un métier.
Eh bien, si l'université enseigne véritablement un métier, et si l'étudiant apprend sérieusement ce métier, alors il sera capable d'y parvenir dans une situation qui comporte en même temps beaucoup d'autres choses. Et si, de part et d'autre, on constate un manque de sérieux, a fortiori l'attention pourra se porter sur quelque chose d'autre.
J'admire ce raisonnement.
Je sais que la liberté dont je parle est loin de régner. Les universités sont en retard pour la plupart, elles n'ont pas compris la nécessité de s'évader des soucis de la rentabilité. Il ne devrait y avoir d'université qu'expérimentale, selon le sens que je donne à ce terme, c'est-à-dire noble, dégagée de toute préoccupation de productivité. À la sortie de l'université, les étudiants sont directement en but à l'économie, c'est-à-dire à l'organisation. Mais c'est au nom de cette rencontre avec l'économie que l'on interdit à chacun de multiplier ses possibilités. Dans l'université de l'Illinois, on a commencé à essayer de remédier à cet état de choses. On délie chaque étudiant de toute obligation de suivre tel ou tel cours. On s'achemine vers la substitution aux examens de certificat de scolarité. Je pense qu'un étudiant devrait être autorisé, s'il le désire, à ne jamais cesser d'étudier.
C'est un défi à l'économie toute puissante.
Certainement, il faut supprimer l'économie. Par économie, j'entends l'argent. Comme la politique. Et que, par politique, j'entends le pouvoir. Ne pas la laisser nous régir, mais le repenser, pour qu'elle nous libère au lieu de nous limiter. Pour cela, il faut commencer par liquider le dogme le plus anachronique, celui de l'action rentable, celui que perpétuent les universités Or, cela esclave de l'organisation et du gouvernement, le dogme productiviste ou de rentabilité. L'économie nous détourne d'en user avec la technologie comme avec une utilité. Elle traduit le fait de l'organisation, elle exalte la propriété, elle rend difficile l'accès à une vie convenable à tous ceux qui n'ont pas le culte de l'action rentable. C'est cela que j'appelle productivité. Nous devons nous en débarrasser.
Pour les oiseaux, une mise en voix d'Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera, des entretiens de Daniel Charles avec John Cage. La suite, demain, 9h30, rediffusion 15h30.